Chers frères et sœurs et chers amis, nous sommes maintenant à l'étude numéro 17, toujours sur ce merveilleux thème qui est la prière. Le thème d'aujourd'hui sera la grande affliction de Dieu. Dieu s'étonne. Et c'est une pensée très surprenante. Toute la hardiesse de cette pensée devrait réellement retenir l'attention de tous les hommes, femmes et jeunes qui sont chrétiens. Un Dieu qui s'étonne. Nous devons donc, en plus forte raison, être touchés en apprenant la cause. Oui, la cause de l'étonnement de Dieu. Tout d'abord, elle peut nous donner l'impression qu'elle a peu d'importance. Cependant, voyez-vous, si nous acceptons de méditer sur la question, nous découvrirons qu'elle est d'une extrême importance pour toute personne qui croit en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui soit si plein de signification, si vital pour notre bien-être spirituel. Dieu s'étonne de ce qu'il n'y ait pas un homme, une femme, de ce que personne n'intercède. Ésaïe chapitre 59, verset 16. Toutefois, c'était il y a très longtemps, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité, avant la descente du Saint-Esprit, plein de grâce et de puissance, qui nous aide dans notre faiblesse, qui intercède pour nous et qui est en nous. Romains chapitre 8, verset 26. Oui, en effet, c'était avant les promesses vraiment surprenantes de notre Sauveur en ce qui concerne la prière, avant que les hommes ne sachent beaucoup de choses sur la prière, au temps où les sacrifices pour les propres fautes paraissaient beaucoup plus grands que l'humble intercession pour d'autres pécheurs. Oui, combien l'étonnement de Dieu doit être grand de nos jours. Car en effet, combien ils sont rares, ceux parmi nous, qui savent ce qui est réellement la prière exaucable. Chacun de nous serait certainement prêt à reconnaître qu'il compte sur la prière. Cependant, combien y en a-t-il parmi nous qui croient vraiment à la puissance de la prière? Alors, avant d'aller plus loin, je te demande instamment de ne pas écouter à la hâte ce qui est dit dans ce CD, car tout dépend en effet de la prière. Pourquoi de nombreux chrétiens sont-ils si souvent vaincus? Mais tout simplement parce qu'ils prient si peu. Pourquoi, on peut dire, y a-t-il beaucoup d'ouvriers dans le royaume de Dieu qui sont découragés et même abattus? Mais c'est parce qu'ils prient si peu. Pourquoi tant de croyants sont-ils obligés de constater que bien peu de personnes sont amenées des ténèbres à la lumière par leur ministère? Parce qu'ils prient si peu. Je crois que ça vaut la peine de répéter ce passage. Pourquoi tant de croyants sont-ils obligés de constater que bien peu de personnes sont amenées des ténèbres à la lumière par leur ministère? tout simplement parce qu'ils prient si peu. Pourquoi nos communautés ne brûlent-elles pas tout simplement pour Christ? Parce que nous faisons si peu de véritables prières. Le Seigneur Jésus-Christ est de nos jours aussi puissant que jamais. Le Seigneur Jésus est aujourd'hui aussi préoccupé du salut des hommes que jadis. Son bras n'est pas devenu trop court pour pouvoir sauver, mais il ne peut le tendre avant que nous prions davantage et plus sérieusement. Nous pouvons être sûrs que la raison de tous nos échecs et notre manque de prière secrète est à l'origine de ce que tout va pas si bien que cela. Voyez-vous, si Dieu s'est étonné au temps d'Ésaïe, eh bien, nous n'avons pas lieu alors d'être surpris en constatant qu'il s'est étonné à l'époque à laquelle il vécut sous forme humaine. Il s'est étonné de l'incrédulité de certains. Oui, une incrédulité qui manifestement l'empêcha même d'accomplir un acte de puissance dans leur ville. Vous pouvez noter et vérifier Saint Marc, chapitre 6, verset 6. Oui, en effet, nous devons cependant prendre en considération que ceux qui se rendirent coupables de cette incrédulité ne trouvaient pas de beauté à Jésus qui ait pu les attirer ou même les inciter à croire en lui. Combien grand doit alors être aujourd'hui son étonnement en voyant parmi nous qui prétendons l'aimer et l'adorer, si peu d'hommes et de femmes vraiment se réveiller pour s'attacher à lui. Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Y a-t-il, oui, y a-t-il effectivement quelque chose de plus étonnant, chers amis, qu'un chrétien qui ne prie pour ainsi dire pas du tout? Nous vivons à une époque riche en événements et en calamités, n'oublions pas. De nombreux signes nous incitent, il me semble, à croire qu'il s'agit des derniers temps pendant lesquels, comme il l'a promis, Dieu répandra son Esprit Saint, Esprit de la prière, sur toute chair, selon Joël, chapitre 2, verset 28. Pourtant, la grande majorité de ceux qui se disent chrétiens, ils savent à peine ce que le mot prière signifie en réalité. Non seulement certaines de nos églises n'ont pas de réunion de prière, mais elles adoptent une attitude de refus en ce qui concerne ce genre d'assemblée et les tournent même en dérision. Étant donné qu'elles reconnaissent l'importance de l'adoration et de la prière, l'Église anglicane attend de ses pasteurs qu'ils lisent chaque jour les prières matin et soir dans l'Église. Toutefois, quand ceci est pratiqué, n'est-ce pas souvent dans des églises vides? Les prières ne sont-elles pas fréquemment dites d'une manière monotone, excluant la véritable adoration? De même, la common prayer, la prière générale, doit nécessairement être plutôt vague et sans objet précis. Qu'en est-il des communautés dans lesquelles la réunion de prière hebdomadaire s'est maintenue suivant la vieille habitude. Notre grand et merveilleux serviteur Spurgeon, il avait la joie de pouvoir dire qu'il présidait tous les mardis soirs une réunion de prière à laquelle ne se rendaient en général pas moins de 1000 à 1200 participants. Mes chers amis, avons-nous vraiment cessé de croire à la prière? Si même nous continuons à fréquenter régulièrement les réunions de prière hebdomadaires, n'est-ce pas un fait que la majorité des membres de la communauté n'y participent jamais? Oui, le plus grand nombre d'entre eux ne pensent même pas à y participer. Pourquoi en est-il ainsi? À qui la faute? C'est seulement une réunion de prière. Oh là là, combien de fois avons-nous entendu cette remarque? Combien parmi ceux qui entendent ces mots éprouvent-ils vraiment de la joie en participant à une réunion de prière? Je vous le demande. Est-ce une joie ou juste un devoir? Ça, c'est pas la même chose. Ne me tenez pas rigueur de poser tant de questions et de montrer ce qui paraît être une faiblesse dangereuse et une lamentable insuffisance dans nos communautés. Il ne s'agit pas de critiquer et encore moins de condamner. N'importe qui peut le faire. Notre plus vif désir est d'inciter les chrétiens à s'approcher de Dieu comme jamais auparavant. Nous désirons encourager, stimuler et relever. Jamais nous ne nous trouvons à un niveau aussi élevé qu'au moment où nous sommes à genoux. Critiquer, c'est peu pour moi. Qui ose critiquer quelqu'un d'autre quand nous jetons un regard sur notre passé et que nous nous souvenons du manque de prière dans notre propre vie, toute critique disparaît de nos lèvres. Cependant, nous croyons que le temps est venu où l'appel du clairon est nécessaire à chacun, en particulier et aux communautés. C'est l'appel à la prière. À vrai dire, oserons-nous réellement faire face au problème de la prière? Il semble que ce soit une question insensée. La prière n'est-elle pas une partie et un élément de toutes les religions? En dépit de cela, nous nous permettons de demander à nos auditeurs d'aborder cette question avec loyauté et franchise. Est-ce que je crois vraiment que la prière est une force? La prière est-elle vraiment la plus grande force sur terre ou non? Est-ce vrai que la prière fait mouvoir la main qui dirige le monde? Les instructions de Dieu sur la prière me concernent-elles véritablement? Les promesses de Dieu relatives à la prière sont-elles toujours valables? Nous avons tous murmuré « oui, oui, oui » en entendant ces questions. Personne n'ose répondre par non à aucune d'elles. Et pourtant, oui, pourtant, avez-vous déjà eu conscience du fait que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais donné un commandement inutile ou n'impliquant aucun engagement. Croyons-nous vraiment, réellement, que notre Seigneur n'ait jamais fait de promesses qu'il ne pouvait ou ne voulait pas tenir? Les trois grands commandements de notre Sauveur pour notre manière d'agir définitive furent prescrits en ces termes. Priez, faites ceci et allez. Je répète, priez, faites ceci et allez. Lui obéissons-nous? Combien de fois le commandement « faites ceci » est-il réitéré aujourd'hui par nos prédicateurs? On pourrait presque croire que c'est le seul commandement de notre Seigneur. Par contre, il est bien rare que l'on nous rappelle son invitation à prier et à aller. Or, si nous ne suivons pas l'instruction « Priez non seulement, faites ceci, mais aussi allez maintenant. » Tout cela n'aura peu d'utilité ou même ne servira absolument à rien. On peut en effet constater tous nos manques de succès, tous les échecs, que dans la vie spirituelle et dans le travail pour le Seigneur sont dus à une prière défectueuse ou insuffisante. Tant que nous ne prions pas correctement, nous ne pouvons ni vivre comme il le faut, ni bien servir. Ceci peut, à première vue, donner l'impression d'être une grossière exagération, mais plus nous réfléchissons à la lumière de l'Écriture sainte, plus nous sommes convaincus de la vérité de cette constatation. Par conséquent, si nous voulons recommencer à tenir compte de ce que la Bible a à dire sur ce mystérieux et merveilleux thème, nous devons nous efforcer de lire quelques promesses de notre Seigneur, comme si nous les avions jamais entendues auparavant. Quel en sera le résultat? Voici le témoignage d'un pasteur qui me semble intéressant. Il y a une vingtaine d'années, dit-il, j'étudiais dans une faculté de théologie. Un matin, un camarade d'études, aujourd'hui l'un des principaux missionnaires, il se précipita dans ma chambre tenant dans sa main une Bible ouverte. Bien que se préparant à exercer des fonctions de prédicateur, il n'était encore à cette époque qu'un jeune converti. Il était allé à l'université sans s'occuper de ce genre de choses. Étant très sociable, intelligent et même sportif, il venait de se faire une place dans le milieu élégant de son université quand, tout à coup, le Seigneur a mis sa main sur lui. Il accepta Jésus-Christ comme son sauveur personnel et il devint un fervent disciple de son maître. La Bible était relativement un nouveau livre pour lui, de sorte qu'il y faisait toujours des découvertes. Le jour mémorable où il a fait irruption dans ma quiétude, il s'écria avec enthousiasme, tout son visage illuminé carrément par une joie mêlée de surprise. « Crois-tu, cher frère, à tout cela ?» Est-ce bien vrai? Que dois-je croire? Demandai-je en jetant avec un peu d'étonnement un regard sur sa Bible qui était ouverte devant nous. Et qu'en est-il de... Et il se mit à lire avec ardeur Saint Matthieu chapitre 21, versets 21 et 22. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi et ne doutez pas, tout ce que vous demanderez par la prière en croyant, vous le recevrez. Crois-tu ce que je viens de lire? Est-ce vraiment vrai? Oh oui, ai-je répondu. Ah oui, tout à fait. Assez surpris par son agitation, naturellement, c'est vrai, évidemment, et je le crois. Cependant, toutes sortes de pensées m'ont ensuite traversé l'esprit. C'est ce que dit ce pasteur dans ce témoignage. C'est une magnifique promesse, dit-il, et elle me paraît n'avoir aucune limite. Pourquoi ne prions-nous pas davantage? Puis il s'en alla en me laissant tout pensif. Je n'avais jamais considéré ces versets tout à fait de cette manière-là. Aussi, après avoir fermé la porte derrière ce jeune et très ardent disciple du Seigneur Jésus-Christ, j'eus une vision de mon Sauveur, de son amour et de sa puissance, comme je n'en avais jamais eu auparavant. Une vie de prière, oui, et une puissance illimitée, oui, tout cela se montrait à moi. Je réalisais que cette puissance ne dépendait que de deux choses, de la foi et de la prière. Pendant un moment, je fus ébranlé. Je tombai à genoux, et alors que je m'inclinais devant le Seigneur, quelles ne furent pas les idées qui surgirent dans mon esprit, quelle espérance et quelle aspiration fervente inondèrent mon âme. Dieu me parla d'une manière inaccoutumée. C'était un grand appel à la prière, mais à ma honte, il faut dire que je n'ai pas prêté attention à cet appel. En quoi n'ai-je pas fait ce que Dieu attendait de moi? Dès lors, je priais certes un peu plus qu'auparavant, mais il ne semblait pas se passer grand-chose dans ma vie. Pourquoi cela? Était-ce parce que je n'avais pas réalisé quel haut niveau de vie intérieure le Sauveur attendait de tous ceux qui voulaient être exaucés dans leurs prières? Était-ce peut-être parce que j'avais omis de mener une vie selon la norme de l'amour parfait qui est si bien décrite au 13e chapitre de la première épître aux Corinthiens? En effet, prier ne signifie pas seulement mettre en pratique de bonnes résolutions de prière. Comme le roi David, il nous faut nous écrier « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur » Psaume chapitre 51. Et ceci avant de pouvoir prier convenablement, évidemment. Les paroles inspirées de l'apôtre de l'amour doivent de nos jours être observées tout autant qu'elles peuvent l'avoir jamais été. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, est-il dit, nous le recevrons de lui. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, versets 21 et 22. Et cela est vrai, et je le crois. Oui, c'est en effet une promesse illimitée, et pourtant, nous en avons si peu conscience. Nous attendons si peu de Christ. Oh, notre Seigneur s'étonne Il s'étend de notre incrédulité. Si seulement nous pouvions lire les évangiles pour la première fois, comme il nous paraîtrait alors être un livre étonnant. N'est-ce pas nous qui devions plutôt être étonnés et être dépassés? Aujourd'hui, je te transmets cet appel. En tiendras-tu compte? En profiteras-tu ou tombera-t-il dans l'oreille d'un sourd de ne pas, oui, de ne pas insister tous les jours à la prière? Amis chrétiens, réveillons-nous, car le diable nous met un bandeau sur les yeux. Il s'applique à nous empêcher de nous occuper de la question de la prière. Ces paroles sont écrites à la suite d'une demande spéciale. Toutefois, de nombreux mois se sont écoulés depuis que l'on m'a adressé cette requête. Et pendant un certain temps, chaque tentative de commencer à parler a échoué, et même maintenant, une étrange répugnance à se mettre à l'œuvre se fait sentir en moi. Une force mystérieuse quelconque semble me retenir. Réalisons-nous que le diable ne craint rien autant que la prière. Sa grande préoccupation est de nous empêcher de prier. Il a du plaisir à nous voir plonger dans le travail jusqu'au cou, pourvu que nous ne prions pas, ou même si peu. Il ne redoute pas notre zèle quand nous étudions la Bible, très sérieusement même, à condition que nous prions surtout très peu. Quelqu'un a dit sagement, « Satan, il rit de nos efforts, il se moque de notre sagesse, mais par contre, il tremble quand nous prions. » Tout cela nous est familier, mais prions-nous vraiment? Si ce n'est pas le cas, l'échec se collera à nos talons, quels que soient les signes de réussite apparente qui puissent y avoir. Oui, voyez-vous, n'oublions jamais ceci. La plus grande chose que nous puissions faire pour Dieu et les hommes, c'est, n'oubliez jamais cela, c'est de prier. Nous pouvons en effet obtenir beaucoup plus par la prière que par le travail. La prière est toute puissante. Elle a le pouvoir de réaliser tout ce que Dieu peut faire. Quand nous prions, Dieu agit. La fructuosité dans le ministère est la conséquence de la prière, de l'ouvrier ou de ceux qui élèvent de saintes mains, des mains saintes, pour lui dans la prière. Croyez-moi, nous savons tous combien prier, mais pourtant, il se peut que beaucoup d'entre nous aient besoin de demander, comme l'ont fait jadis les merveilleux disciples, quand ils ont dit « Seigneur, s'il te plaît, enseigne-nous à prier ». Chers amis, un jour, nous serons avec Christ dans la gloire et nous jetterons un regard en arrière sur l'histoire achevée de notre vie. Et le trait caractéristique le plus étonnant de cette vie passée sera son manque de prière. Nous serons saisis d'étonnement en constatant que nous avons en réalité passer si peu de temps à faire des prières d'intercession. Ce sera notre tour de nous étonner. Au cours du dernier entretien que le Seigneur Jésus-Christ a eu avec ses disciples, juste avant la plus merveilleuse de toutes les prières, le Maître éleva à plusieurs reprises son sceptre d'or royal, et il dit en quelque sorte « Quelle demande avez-vous ? Elle vous sera accordée, même si cela doit aller jusqu'à mon royaume tout entier. Croyons-nous cela ? Nous le devons si nous prenons la Bible au sérieux. Ne devrions-nous pas une fois lire très tranquillement et en méditant l'une des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont tant de fois réitérées ? Si nous ne les avions jamais lues auparavant, nous ouvririons des yeux remplis d'étonnement, car ces promesses sont à peine croyables. Sortant des lèvres de n'importe quel homme ordinaire, elles ne seraient absolument pas dignes de foi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur du ciel et de la terre, qui nous parle. Il parle au moment le plus solennel de sa vie. Oui, à la veille de sa passion et ainsi également à la veille de sa mort. Il s'agit d'un message d'adieu. Maintenant, écoutez ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon Saint-Nom, je le ferai. Saint Jean, chapitre 14, versets 12 et 13. Or, peut-il y avoir des mots qui soient plus simples et plus clairs que ceux-là ? Une promesse peut-elle être plus grande ou plus belle ? Y a-t-il quelqu'un qui ait quelque part ou à une certaine époque offert davantage ? À quel point les disciples ont dû être émus ? Ils en croyaient certainement à peine leurs oreilles. Cependant, cette promesse est tout aussi valable pour toi et pour moi. Afin qu'aucun doute ne puisse naître de leur côté ou du nôtre, le Seigneur réitérera cette promesse quelques instants plus tard. Oui, et le Saint-Esprit poussa même l'apôtre Jean à répéter encore une fois ces paroles par écrit. Il dit, plutôt il écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Saint Jean chapitre 15, versets 7 et 8. Ces paroles sont d'une si grande importance et ont tant de signification que le Sauveur du monde ne se contente même pas d'une triple déclaration. Il exhorte ses disciples à obéir à son commandement et il demande, en fait, il leur fait observer qu'un signe permettant de reconnaître qu'ils sont ses amis, c'est bien celui de l'obéissance absolue à ses commandements. Verset 14 du chapitre 15 de Saint Jean. Et puis, il répète encore une fois ses désirs. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Oui, moi, je vous ai choisi et je vous ai même établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon Saint-Nom, il vous le donnera. » On peut dire « Alléluia ». C'est Saint Jean chapitre 15, verset 16. On pourrait penser que notre Seigneur a maintenant dit assez clairement qu'il désirait voir prier ses disciples et qu'il avait besoin de leur prière et que sans la prière, il ne pourrait rien faire. Cependant, à notre très grande surprise, il revient encore sur le même sujet en disant à peu près les mêmes mots. « En ce jour-là, dit-il, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. » Afin que votre joie soit parfaite. Saint Jean chapitre 16, versets 23 et 24. Avant cela, jamais notre Seigneur n'avait insisté de cette façon-là sur une promesse ou un commandement, mais jamais. Cette promesse réellement merveilleuse nous est faite six fois. Oui, six fois. Notre Seigneur nous a commandé, ou nous commande presque d'une seule traite, d'un seul trait, de demander ce que nous désirons. C'est la plus grande, la plus merveilleuse promesse qui, de tous les temps, ait été faite à l'homme. Pourtant, la plupart des hommes, des femmes, chrétiens, l'ignorent pratiquement. N'en est-il pas ainsi? L'extrême grandeur de cette promesse semble nous subjuguer. Cependant, nous savons qu'il peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est promis dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Toutefois, voyez-vous, la dernière exhortation que notre divin maître donne avant d'être saisi, lié et flagellé, avant que ses gracieuses lèvres sur la croix n'aient été réduites au silence, et celle-ci, écoutez bien ce qu'il nous dit. « Vous demanderez en mon nom, car le Père lui-même vous aime. » Nous passons souvent beaucoup de temps, chers amis, à méditer sur les sept paroles de Jésus-Christ sur la croix, et c'est certainement bien de le faire. Mais avons-nous jamais réfléchi pendant une seule heure sur cette exhortation à prier que notre Sauveur a faite sept fois? Aujourd'hui, il est assis sur le trône de Sa Majesté dans les lieux célestes, tenant devant nous le sceptre de Sa puissance. Allons-nous le toucher et lui demander ce que nous désirons? Il nous presse pourtant de prendre possession de ses trésors. Il désire nous accorder, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit Saint dans l'homme intérieur. Il nous enseigne que notre force et notre fructuosité dépendent de nos prières. Il nous rappelle que précisément notre joie dépend de la prière exaucée, Saint Jean chapitre 16, verset 24. Cependant, nous permettons au diable de nous amener à négliger la prière. Il veut nous faire croire que nous pouvons accomplir davantage de choses par nos propres efforts que par la prière, par nos rapports avec les hommes, plus que par l'intercession auprès de Dieu. Cela dépasse notre compréhension que l'on accorde si peu d'attention à la septuple invitation, aux instructions et à la promesse de notre Seigneur. Comment osons-nous travailler pour Christ sans passer beaucoup de temps à genoux? Tout récemment, un ouvrier chrétien plein de zèle, un moniteur d'école du dimanche, prenant régulièrement part à la Sainte Cène, et il m'a écrit ceci. « Dans toute ma vie, je n'ai jamais reçu de réponse à mes prières. Pourquoi donc? Est-ce que Dieu serait un menteur? N'est-il pas digne de confiance? Ses promesses ne sont-elles plus valables? Ne pense-t-il pas ce qu'il dit? En lisant ou en écoutant ces lignes, beaucoup doivent se dire la même chose que ce collaborateur chrétien m'a écrit. Chers amis, voyez-vous, si nous voulons faire beaucoup pour Dieu, il faut que nous lui demandions beaucoup. Nous devons être des hommes de prière. Si nos prières restent sans réponse, est-on entendu, mais pas nécessairement exaucé, c'est entièrement notre faute et non celle de Dieu. Pour Dieu, c'est évidemment une joie d'exaucer nos prières, et il a donné sa sainte parole qu'il répondrait. Chers amis, chers collaborateurs et collaboratrices dans les vignes de notre Seigneur Jésus-Christ, il est bien évident que notre Maître désire que nous demandions et que nous demandions beaucoup. Il nous dit que nous le glorifions en faisant cela. Rien n'est hors de la portée de la prière, si cela n'est pas hors de la volonté de Dieu, évidemment. Et nous ne voulons pas aller au-delà de sa volonté. Comme je l'ai dit dans un CD précédent, c'est pas parce qu'il y a une colline entre ma villa de riche et de la mer, et que je ne peux pas voir la mer du matin au soir, que je dois simplement prier que cette colline s'efface par miracle, d'une façon magique, pendant la nuit. Ça, c'est certainement pas la volonté de Dieu, et certainement pas une prière avec sagesse et avec compréhension dans la réalité. Voyez-vous, nous n'osons pas dire que les paroles de notre Seigneur ne sont pas vraies. Et d'une manière ou d'une autre, certains chrétiens paraissent ne pas avoir vraiment confiance en lui. Qu'est-ce qui nous empêche de faire grand cas de la prière? Doutons-nous de son amour? Jamais. Il est mort à notre place et il a donné sa vie pour nous. Doutons-nous, chers amis, de l'amour du Père? Non. Le Père lui-même vous aime, c'est ce que dit Jésus-Christ en exhortant ses disciples à prier. Doutons-nous de son pouvoir? Pas un seul instant. N'a-t-il pas dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Saint Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Doutons-nous donc de sa sagesse éventuellement? N'avons-nous pas confiance dans le choix qu'il fait pour nous? À aucun moment, pourtant, si peu de ses imitateurs considèrent que la prière en vaut vraiment la peine. Naturellement, nous le nions parfois même souvent. Mais même nos actes parlent plus fort que nos paroles. Craignons-nous, chers amis, de mettre Dieu à l'épreuve? Hein? Ça, c'est une question. Il nous a autorisés à avoir confiance en lui. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, ça, évidemment, on n'aime pas tellement l'entendre. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, nous dit ensuite l'Éternel. Et vous verrez, ah oui, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie chapitre 3, verset 10. Oui, toutes les fois que Dieu fait une promesse, disons simplement et hardiment, comme saint Paul, « J'ai confiance en Dieu ». Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 25. J'essaye de toujours me référer à la Bible et de vous donner les citations bibliques pour autant que cela m'est possible, parce que j'aimerais pas dire n'importe quoi de mon cru. Oui, croyons donc, chers amis, que le Seigneur tient sa parole. Allons-nous partir d'aujourd'hui, commencer à devenir, à partir d'aujourd'hui, de devenir des hommes et des femmes de prière, surtout, si nous ne l'avons jamais été jusqu'à présent. Ne mettons pas cela à une période plus propice, car cette période-là pourrait ne bien jamais arriver. Dieu désire que je prie aujourd'hui. Jésus-Christ désire également ma prière. Il en a besoin. Tant de choses, tout en fait, dépend de la prière. Comment pouvons-nous nous permettre de tarder à prier? Donc, puisse chacun de nous, chers amis, à genoux, se poser cette profonde et sérieuse question. Si personne sur terre ne prie pour le salut des pécheurs avec plus de ferveur et de régularité que moi, combien alors seront convertis par la prière? Je vous le demande. Et vous avez compris que je me pince mon nez d'abord moi-même. Chers amis, passons-nous 10 minutes par jour, par exemple, en prière? Lui accordons-nous assez d'importance pour cela? 10 minutes par jour, à genoux, en prière? Quand celui qui prie peut obtenir le royaume des cieux? Oui, seulement 10 minutes. La partie de notre temps que nous passons à nous attacher à Dieu paraît très insuffisante, selon Ésaïe chapitre 64, verset 6. Et d'autre part, est-ce vraiment prier? Quand nous disons nos prières ou répétons chaque jour seulement quelques phrases en 2 minutes qui n'ont pratiquement plus de signification pendant que nos pensées vagabondent ici et là. Si Dieu répondait aux paroles que nous avons répétées ce matin à genoux, le remarquerions-nous? Je vous pose la question. Reconnaîtrions-nous la réponse? nous sauvons-nous nous-mêmes de ce que nous avons demandé ? Hein ? Jésus-Christ lui y répond. Il nous a donné sa sainte parole qu'il répond à chaque prière faite réellement avec la foi. Aussi, dans un prochain chapitre, ça veut dire dans un prochain CD, vous l'avez bien compris. Nous allons voir ensemble ce que la Bible a à dire sur ce point. Aussi, examinons tout d'abord et dans quelle mesure nous passons notre temps en prière. Voyez, pour vous, pour certains d'entre nous, même pas 5 minutes paraissent possibles. Cependant, combien font de même ? La prière est-elle pour moi seulement un devoir ou un privilège, seulement un plaisir ou une véritable joie, même une nécessité, ou est-elle simplement de peu de valeur? Laissons-nous donner une nouvelle vision de Christ dans sa gloire et une nouvelle appréciation, oui, une nouvelle appréciation de toute la richesse de sa gloire. Il veut la mettre à notre disposition et de toute l'étendue du pouvoir qui lui a été donné, il veut nous en faire bénéficier. Ensuite, chers amis, voyons le monde et tous ses besoins avec de nouveaux yeux. Le monde a-t-il jamais eu autant de difficultés qu'aujourd'hui ? Il me semble que c'est le pire que jamais aujourd'hui. Voyez-vous, l'étonnant, ce n'est pas que nous prions si peu, mais que nous puissions nous relever après nous être agenouillés, tout en ayant conscience de nos propres besoins, de ceux de nos familles et de ceux qui nous sont chers, des difficultés, par exemple, de nos pasteurs et églises diverses, des besoins de nos villages, de notre pays et même du monde païen. Il est possible de pouvoir à tous ces besoins de pourvoir, aimerais-je dire, à tous ces besoins par la richesse de Dieu en Jésus-Christ, tout simplement. Saint Paul n'avait aucun doute à ce sujet, croyez-moi, et nous n'en avons ou nous ne devrions pas en avoir davantage. Oui, mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Toutefois, il faut bien entendu prier pour avoir part à ces richesses, car le même Seigneur est seulement riche pour ceux qui l'invoquent. Cela paraît tout à fait logique. Romains chapitre 10, verset 12. L'importance de la prière est si grande que Dieu a pris soin de prévenir toutes les excuses ou objections que nous pourrions faire valoir. Les hommes prennent la défense de leur faiblesse et de leur manque d'énergie ou déclarent qu'ils ne savent pas comment prier. Heureusement qu'il y a des femmes qui pensent autrement. Dieu a vu cette incapacité longtemps à l'avance. N'est-ce pas lui qui avait inspiré l'apôtre Paul pour dire « De même aussi l'Esprit nous guide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit-Saint parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Oui, chaque précaution nécessaire est prise pour nous. Mais seul le Saint-Esprit peut nous inspirer de nous attacher à Dieu. Si nous cédons aux inspirations de l'Esprit-Saint, nous suivrons certainement l'exemple des apôtres de jadis qui s'adonnaient à la prière et qui continuaient à s'appliquer à la prière, selon Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4. Nous pouvons être absolument certains de ceci, l'influence d'un homme dans le monde ne peut être mesurée à son éloquence et à son orthodoxie, pas plus que à son énergie, mais à ses prières. Oui, nous pouvons aller plus loin et soutenir chacun homme, on peut dire chacun homme ou femme, ne peut vivre équitablement si lui ou elle ne prie pas comme il convient. J'aimerais dire que nous pouvons travailler pour Dieu, même du matin au soir. Nous pouvons passer beaucoup de temps à étudier la Bible. Nous pouvons être très sérieux et croyants, acceptables dans nos prédications et notre comportement individuel, mais aucune de ces choses ne peut être vraiment efficace à moins que nous ne prions beaucoup. Ça vaut la peine de répéter ce passage. Donc, j'ai dit que nous pouvons travailler pour Dieu du matin au soir, nous pouvons passer beaucoup de temps à étudier la Bible, nous pouvons être très sérieux et croyants, nous pouvons être acceptables dans nos prédications et notre comportement individuel, mais aucune de toutes ces choses-là ne peut être vraiment efficace à moins que nous ne prions beaucoup. Autrement, nous serons seulement pleins de bonnes œuvres, alors qu'il nous faut porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est pas pareil. Colossiens chapitre 1, verset 10. Car celui qui a peu de rapport avec Dieu dans la prière, le sert également dans une faible mesure. Prier beaucoup en secret signifie beaucoup de force en public. Pourtant, n'est-il pas de fait qu'alors que nous procédons à une organisation presque parfaite, nous abandonnons presque la lutte dans la prière ? On se demande pourquoi le réveil ne se produit pas. Il n'y a qu'une chose qui puisse le retarder, et c'est le manque de prière. Tous les réveils ont été le fruit de la prière. Certains aspirent parfois à entendre la voix d'un archange, mais à quoi cela pourrait-il servir si même la voix de Christ ne nous amène pas à prier ? Il semble presque inconvenant d'implorer, alors que notre Sauveur a fait de telles promesses illimitées. Cependant, nous sentons qu'il est nécessaire de faire quelque chose, et oui, et nous croyons que le Saint-Esprit inspire les hommes à se rappeler et à rappeler à d'autres les paroles et la puissance de Christ. Nos propres paroles, oui, nos propres paroles sans la prière ne peuvent convaincre personne de la valeur, de la nécessité et même de la toute-puissance de la prière. Ces propos parviennent à notre auditeur en étant accompagnés de prières, oui, pour que Dieu, par le Saint-Esprit, convainc lui-même les hommes et les femmes du péché consistant à ne pas prier, et pour qu'il les pousse, qu'il nous pousse à se mettre à genoux afin d'invoquer Dieu dans une fervente et triomphante intercession. Le Seigneur Jésus-Christ, maintenant dans sa gloire, nous exhorte à tomber à genoux et à prendre possession des richesses de sa grâce. Personne ne peut se permettre de prescrire, on peut dire, à un autre combien il doit passer de temps en prière, pas plus que nous ne pouvons suggérer que les hommes fassent le vœu de prier tant d'heures ou tant de minutes par jour. Naturellement, le commandement que la Bible nous transmet est de prier sans cesse. Et c'est évidemment la bonne attitude de prière et celle que l'on doit avoir dans la vie. Nous parlons ici d'actes de prière bien déterminés. Avons-nous, chers amis, jamais remarqué le temps que nous consacrons à la prière ? Nous croyons que la plupart de nos auditeurs seraient surpris et confus si il leur arrivait de contrôler leur temps. Il y a quelques années, cette question de la prière se posa pour moi. Je sentis que, dans mon cas, le temps minimum à passer par jour en prière devait être d'une heure ou moins. Aussi, je pris tous les jours soigneusement les notes sur ma vie de prière. Quelque temps plus tard, je rencontrai un frère dont Dieu pouvait se servir très fréquemment. Lui ayant demandé à quoi il attribuait principalement cet état de choses, celui-ci me répondit très tranquillement, « Eh bien, à vrai dire, je ne pourrai pas poursuivre ma tâche tant que je n'ai pas prié à genoux un minimum de 2 heures par jour. » Ensuite, une missionnaire d'outre-mer, qui était remplie de l'Esprit-Saint, croisa mon chemin. Elle me fit très humblement le récit des choses merveilleuses que Dieu faisait par son ministère, et de tout cela, il se dégageait que toute la gloire et tout l'honneur étaient rendus à Dieu seul. Bien souvent, je trouve nécessaire de passer 4 heures par jour en prière. Avez-vous entendu cela? C'est ce qu'elle a dit, cette missionnaire hors du commun. Voyez-vous, nous nous souvenons que le plus grand de tous les missionnaires passait parfois des nuits entières en prière, si vous lisez simplement l'évangile de Saint Jean. Pourquoi notre Seigneur ne priait pas simplement pour nous donner l'exemple, hein? Il ne faisait jamais quelque chose uniquement pour que cela serve d'exemple. Il priait parce qu'il en avait besoin, tout simplement. Pour lui, l'homme parfait, la prière était une nécessité. À combien plus forte raison est-elle alors une nécessité pour toi, cher ami, chère amie, et pour moi? 4 heures par jour en prière, s'écria un homme qui mettait toute sa vie au service de Dieu, et une femme merveilleuse faisait de même en travaillant comme médecin dans la mission. 4 heures! Je ne trouverai jamais le temps pour une telle chose, avait dit un autre médecin missionnaire. Donnez-moi seulement 5 minutes et j'en ai bien assez, car le temps ne me le permettra pas. C'était une confession assez honnête, hein, et tout de même courageuse. bien que, il me semble, très triste. Pourtant, oui, qu'en serait-il si d'autres étaient prêts à parler aussi franchement? Or, ce n'est pas par hasard que ces hommes ont croisé mon chemin. Dieu m'a parlé par leur intermédiaire. En fait, c'était également un appel à la prière du Dieu de patience qui est aussi le Dieu de consolation. Romains chapitre 15, verset 5. Après que leur paisible message eut pénétré mon âme, un livre me tomba entre les mains tout par hasard, comme disent les gens d'aujourd'hui. Et ce livre racontait brièvement et simplement l'histoire de John Hyde, The Praying Hyde, le Hyde priant, comme on avait coutume de l'appeler. De la même manière que Dieu envoya Jean-Baptiste pour préparer le chemin de notre Seigneur lors de sa première venue, il envoya à notre époque John Hyde pour préparer son retour. Le Hyde priant, quel merveilleux nom! En lisant l'histoire de cette merveilleuse vie de prière, on se demande malgré soi, oui, malgré soi, on peut se demander, ai-je jamais prié? Je me suis aperçu que d'autres se posaient absolument la même question. Une dame connue pour sa fidèle intercession m'avait écrit un jour, cher frère en Christ, après avoir posé ce fameux livre, j'en suis venu à penser que je n'avais jamais vraiment prié de ma vie. Cependant, nous devons laisser ce juste sujet. Allons-nous, chers amis, nous agenouiller devant Dieu et permettre à son Saint-Esprit de nous sonder complètement? Sommes-nous sincères? Désirons-nous réellement faire la volonté de Dieu? S'il en est ainsi, cela ne va-t-il pas nous amener à passer davantage de temps à genoux devant Dieu? Ne fais pas le vœu de prier tant d'heures par jour, mais prends la résolution de prier beaucoup. Toutefois, pour avoir de la valeur, les prières doivent être faites spontanément et non sous la contrainte. Nous devons d'autre part garder présent à l'esprit que les simples résolutions de prendre davantage le temps pour prier et de surmonter les obstacles nous en empêchant. Oui, ça va nous empêcher et de ne pas toujours être efficace, à moins qu'il n'y ait un abandon sincère de ma part et de votre part, un abandon absolu au Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous et moi, si nous n'avons jamais fait ce fameux pas, nous devons le faire maintenant, car nous voulons devenir des hommes et des femmes de prière. Je suis sûr d'une seule chose, Dieu désire que je prie et que tu pries. La question est seulement, cher ami, consentons-nous à prier? Ô Sauveur, plein de grâce, répands sur nous ton Saint-Esprit en abondance pour que nous devenions réellement des chrétiens qui n'ont pas peur de s'agenouiller. Prions ensemble maintenant. Tout simplement. Seigneur, tu nous dis dans ton Saint-Évangile que si quelqu'un veut venir à toi, il doit renoncer à soi-même. Il doit se charger chaque jour de sa croix et te suivre. Sentons-nous dans nos cœurs un sincère désir de mettre en pratique ce divin commandement? Connaissons-nous le renoncement à nous-mêmes? En faisant l'examen sérieux et attentif de nos actions, de nos paroles et de nos pensées pendant la durée de ce jour? Ne sommes-nous pas contraints par notre conscience de nous déclarer coupables et d'avouer avec confusion et douleur que, loin d'avoir agi avec abnégation, nous n'avons cessé d'être asservis par l'amour de nous-mêmes? Que de souffrances pour nous et pour les autres n'en résulte-t-il pas? L'exigence, l'irritation, la susceptibilité, l'indifférence envers autrui sont carrément les résultats inévitables de cet oubli du devoir que tu imposes à tes disciples que nous sommes. Si nous savions renoncer à nous-mêmes, combien de difficultés seraient aplanies dans la vie, combien d'épreuves seraient adoucies, combien de circonstances pénibles changeraient de nature. Le renoncement à ses propres désirs, à ses idées, à ses jouissances est sans doute difficile et souvent douloureux à pratiquer. Mais si dans le moment même nous en pouvons souffrir, de combien de douceur indicible n'est-il pas suivi? L'âme se sent plus étroitement unie à toi, Seigneur, quand elle parcourt cette route bénie. Le cœur s'élève à toi dans une secrète adoration qui nous fait par avance sentir et comprendre les joies du ciel. Sans le renoncement à nous-mêmes, nous ne pouvons contribuer véritablement au bonheur de nos alentours, au soulagement des souffrances dont nous sommes appelés à être témoins. Nous ne pouvons nous dévouer entièrement à ton service, car resserrés dans les chaînes de l'égoïsme, toute liberté d'action et tout dévouement nous devient impossible. Ô Dieu, là où est ton Esprit Saint, là est la liberté. Daigne donc nous accorder ce don précieux. Viens nous affranchir de l'amour de nous-mêmes et inspire-nous le désir ardent de suivre l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, qui a donné sa vie pour nous et dont le sacrifice est pour nous une si grande leçon de renoncement à nous-mêmes. Seigneur, nous n'avons l'espoir qu'en toi. Aie pitié de nous et daigne exaucer notre prière. Amen. Amen. Chers amis, merci encore pour tout l'intérêt que vous portez à ces études. Et à bientôt à nouveau, à la prochaine étude, n'est-ce pas? Et merci de tout cœur pour votre fidélité. Et n'oublions pas, qui que vous soyez, simplement de ne jamais oublier de prier. Au revoir, à bientôt.